Bonjour à tous, Pierre-Yves et Ségolène, nous sommes d'Autun et on a été pris en otage, donc nous devons vous entretenir de la vie de Jacques et Raïssa Maritain.
Voilà, trêve de plaisanterie. Ça y est, donc c'était notre tour de préparer un topo pour la session. C'était un petit peu comme ça que nous avons reçu la demande. Chacun son tour. Quelle ne fut pas notre surprise en essayant de faire du coup le tour du sujet ? Impossible. Raïssa et Jacques Maritain nous ont perdus en route. Leur héritage est immense et tellement profond qu'il faudrait presque en faire une session. Plus nous apprenions à les connaître, plus nous réalisions notre ignorance et plus cela nous semblait insurmontable. Pourtant, c'est plus le temps qui nous a manqué car nous avons réalisé à quel point ils étaient pédagogues et que cela donc pouvait être à notre portée. Ces savants ont eu ce talent. Le couple Maritain peut être comparé à une lampe qui est actuellement sous le boisseau, car notre société les connaît peu et pourrait sûrement en profiter. Pourquoi cette méconnaissance ? Les Maritains n'ont pas eu peur de dénoncer les maux du monde tout en vivant la foi, la charité et l'espérance, et pour faire briller la vérité incarnée en Jésus qu'ils ont découvert chemin faisant. Ils ont persévéré dans leurs intuitions, comme leur avait conseillé Bergson. Passionnés de Dieu, en premier lieu, et passionnés d'amour l'un pour l'autre et pour leur prochain. C'est de cette manière qu'ils ont réussi à être témoins de la sagesse. Voici une très belle citation de Raïssa. « Il y a une sainteté pour chacun de nous, à la mesure de notre destinée, et que Dieu se propose d'obtenir par des voies qui ne sont cataloguées dans aucun manuel de perfection. » Nous verrons donc successivement leur vie, puis quelques thèmes qu'ils ont traités, notamment science et sagesse, art et poésie, morale et politique, culture et religion.
Qui sont donc les Maritains ? Jacques, né à Paris le 18 novembre 82, fils d'un avocat, Paul Maritain, qui était franc-maçon, et de Geneviève Favre, son épouse. Il fut instruit pendant son enfance dans le protestantisme libéral. Fils d'une des premières femmes divorcées de France, il baigna toute son enfance dans un climat très féministe. Il étudia au lycée Henri IV, puis après son baccalauréat, il prépara une licence en philosophie, puis en sciences naturelles à la Sorbonne. Et c'est là où il rencontra Raïssa en 1901.
De son côté, Raïssa Oumansoff est née au sein d'une pieuse famille juive. En septembre 1883 dans l'Empire russe. À l'âge de 2 ans, la famille ira habiter en cette ville tristement célèbre actuellement de Mariupol et verra une petite sœur de 3 ans, sa cadette, Inetra. Raïssa a 10 ans lorsque toute la famille émigre en France pour fuir les discriminations antisémites locales et pour permettre aux deux enfants de faire leurs études. La famille est naturalisée le 17 septembre 1900. Le papa de Raïssa exerce le métier de tailleur, puis tient une pension de famille avec sa femme dans le quartier Bastille, où se succéderont étudiants et juifs russes. La famille perd sa pratique religieuse et devient marxiste. Comme beaucoup de leurs amis, ils investissent tous leurs espoirs dans la science. Raïssa est une élève brillante. Elle apprend le français en 2 semaines et sera même première de sa classe en fin d'année. Elle est ensuite inscrite en faculté de sciences en biologie et botanique à la Sorbonne. Jacques et Raïssa se fiancent en 1902 et se marient en 1904.
La recherche, alors pour la petite histoire, ils se sont rencontrés lors d'une manifestation où Jacques, qui était à l'époque plutôt socialiste, voire un peu anarchiste, distribuait des prospectus pour protester contre je ne sais plus quoi. Et c'est à ce moment-là.
La maltraitance de la police du Tsar envers les étudiants socialistes de Russie.
Ouais, c'était une bonne façon d'aller.
De rejoindre Raïssa.
À la recherche d'un absolu. Et de la vérité, la recherche d'un absolu et de la vérité les rassemble. Mais le rationalisme et le scientisme ambiant ne les comblent pas. Ils sont amèrement déçus par la philosophie scientiste et phénoméniste des maîtres de la Sorbonne, qui finit par les faire désespérer de la raison. Jacques et Raïssa décidèrent cependant, comme elle le rapporte dans Les Grandes Amitiés, de faire encore quelque temps confiance à l'inconnu, de faire crédit à l'existence comme une expérience à faire, dans l'espoir qu'à leur appel, véhément, le sens de la vie se dévoilerait. Mais Raïssa poursuit. Si cette expérience n'aboutissait pas, la solution serait le suicide. Heureusement pour eux, un ami de la famille de Jacques, qui s'appelle Charles Péguy, écrivain et poète, les conduit au premier cours d'Henri Bergson, qui leur apporte une lueur d'espoir. Mais c'est la rencontre, en juin 1905, avec l'écrivain Léon Blois, et la lecture de son livre « La femme pauvre » qui les a guéris définitivement du désespoir. Voici un extrait de ce livre. « On n'entre pas au paradis demain, ni dans 10 ans. On y entre aujourd'hui, quand on est pauvre et crucifié. Ce n'est qu'une tristesse, il n'y a qu'une tristesse, c'est de ne pas être saint. »
Peu de temps après, Jacques et Raïssa reçurent le baptême dans l'église catholique en juin 1906, avec Léon Blois comme parrain. Vera, la sœur de Raïssa, fut baptisée le même jour et vécut toute sa vie aux côtés du couple. Raïssa raconte « Une paix immense descendit en nous, portant en elle les trésors de la foi. Il n'y avait plus de questions, plus d'angoisses, plus d'épreuves. L'Église tenait ses promesses, et c'est elle la première que nous avons aimée. C'est par elle que nous avons connu le Christ. Je pense maintenant que la foi, une faible foi, existait déjà. Impossible à formuler consciemment. Au fond, le plus obscur de notre âme. Mais nous ne le savions pas. C'est le sacrement qui nous l'a révélé. C'est la grâce sanctifiante qui l'a fortifié en nous. » En juin 1905, Jacques Maritain fut reçu à l'agrégation de philosophie. Il obtint ensuite une bourse pour étudier en Allemagne pendant 3 ans. À leur retour en France, encore jeune converti, ils rencontrèrent le père dominicain Humbert Clérissac, qui les orienta vers l'étude de saint Thomas d'Aquin. Ce fut le début d'une grande amitié avec ce saint docteur de l'Église, qui date du Moyen Âge. La vie des Maritains se déroula dans un premier temps à Paris, puis à Versailles. À partir de 1912, Jacques commence à enseigner la philosophie au Collège Stanislas et à l'Institut catholique de Paris.
Après la Première Guerre mondiale, il reçut l'héritage de Pierre Villard, qui était un catholique militant de l'Action française, qui était mort à la guerre, et qui avait fait de Jacques Maritain et Charles Maurras ses héritiers. Ils purent ainsi s'installer à Meudon, donc un peu en dehors de Paris. Les réunions d'études continuèrent à avoir lieu dans un climat d'amitié, de liberté, dans lequel tous étaient accueillis. Dans la maison succédaient beaucoup de gens. Jacques, revenant sur ses rencontres, écrivit dans son carnet de notes de 1965, ce sera dans l'interrogation, des jeunes, des vieux, des étudiants, des étudiantes, des professeurs, des laïcs en majorité, des prêtres et des religieux, des philosophes de métier, des médecins, des poètes, des musiciens, des hommes engagés dans la vie pratique, des savants et des ignorants, des catholiques en majorité, mais aussi des incroyants, des juifs, des orthodoxes, des protestants, tous. Ils étaient reçus au foyer d'une famille. Ils étaient les hôtes de Raïssa Maritain. On peut donc voir que c'était une véritable auberge espagnole et que beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde se croisait chez eux et que les idées s'agitaient.
Dans la foulée, les cercles thomistes furent fondés en printemps 1922. Jacques et Raïssa en rédigèrent les statuts et le directoire spirituel qui s'appelle « De la vie d'oraison », édité d'abord hors commerce puis publié en 1925. Au cours des 25 années de leur existence, les réunions d'études thomistes accueillirent de nombreux philosophes et ecclésiastiques. Certains feront route un temps avec les Maritains, d'autres philosophes ou théologiens tissèrent avec eux une profonde et durable coopération intellectuelle, comme en témoigne leur riche correspondance. Par exemple, Étienne Gilson, le théologien Charles Journet, l'indianiste Olivier Lacombe, l'islamologue Louis Massignon, le philosophe Simon.
En plus de son enseignement, Jacques Maritain collabora à la Revue universelle fondée en 1920 par Jacques Bainville, revue qui dénonce la démocratie libérale et la modernité. Comme Maurras, Jacques apporta un soutien financier à la revue et dirigea avec une totale liberté la rubrique philosophique jusqu'en 1926, année de la condamnation de l'Action française. Pour autant, les Maritains n'ont jamais cédé à l'idéologie nationaliste ou xénophobe de Maurras. D'ailleurs, suite à la condamnation, Jacques est parti voir le pape à Rome pour lui demander, pour parler de ça avec lui. Et le pape lui a dit, écoutez, suite à la conversation, c'est vous qui allez écrire la réponse aux questions que vous m'avez posées suite aux échanges. Et donc il en a fait deux livres qui ont permis d'éclairer justement les Français sur le pourquoi de la condamnation. Jacques inscrit sa pensée et son action dans un monde contemporain. La modernité qu'il dénonce est une modernité sans la présence spirituelle. Ce n'est pas une critique fondée sur la nostalgie d'un régime révolu. L'intuition des Maritains a été de remettre au goût du jour la pensée de saint Thomas d'Aquin et de la faire sortir du cercle étroit des séminaires afin de la faire connaître au plus grand nombre. Et là, je cite, « Nous pensons que l'heure est venue pour la philosophie thomiste de se répandre dans tous les ordres de l'activité spéculative profane, de laisser les murs de l'école, du séminaire, du collège, pour assumer dans le monde tout entier de la culture le rôle qui convient à une sagesse d'ordre naturel. Elle doit converser avec la politique et l'ethnologie, l'histoire et la poésie. Formée au grand air, elle veut tout en restant séparée des négoces des hommes, s'intéresser à toute leur vie. »
À partir de 1927, Jacques Maritain participe à l'avant-poste au grand débat politique contre les nationalismes français, allemand, italien, espagnol qui secouèrent l'Europe, mais aussi en combattant les illusions et les méfaits de l'idéologie communiste. L'ouvrage clé qui synthétisa sa pensée et qui marqua son opposition aux divers totalitarismes fut « Humanisme intégral », traduit en 11 langues, qui tourna le dos aux rêves nostalgiques de la restauration d'une chrétienté révolue et qui ouvrit les voies à l'instauration d'un idéal historique concret animé par une vision chrétienne fidèle à l'Évangile dans un monde culturellement pluraliste. Pendant l'entre-deux-guerres, à partir des années 1920, Maritain donne également des conférences dans de nombreuses villes d'Europe, plein, et aussi à l'étranger, au Canada, aux États-Unis et en Amérique du Sud.
Au moment de la Seconde Guerre mondiale, pendant la drôle de guerre, il s'engage pour mettre son intelligence au service de la France. Il est du coup mandaté par le gouvernement pour partir aux États-Unis pour travailler à défendre la cause française. La mission de Maritain consista à rédiger des articles destinés aux périodiques américains dans le but de mobiliser les intellectuels et notamment les intellectuels chrétiens, universitaires, religieux ou pasteurs pour défendre la justice de la guerre entreprise par les alliés contre le nazisme et à faire comprendre les valeurs engagées dans ce conflit. C'est à ce moment-là où il rencontre un peu plus le protestantisme, certains pasteurs qui étaient du coup eux aussi très engagés dans la lutte contre le nazisme. Et c'est aussi à ce moment-là, de par, je pense, l'expérience qu'en avait vécue son épouse de tout ce qui était les pogroms et les lois antisémites en Russie, qu'il a essayé le plus d'alerter sur ce qui allait se passer ou ce qui se passait en Allemagne concernant la Shoah. On rapporte qu'à l'époque, les Américains ne voulaient pas le croire et les Juifs américains ne voulaient pas le croire non plus. C'est-à-dire qu'au cours de la guerre, il avait des informations, il en parlait et que les Juifs américains disaient « Non, mais c'est pas possible, il ne le concevait pas, alors que lui était, avec certains pasteurs, vraiment au courant de ce qui se passait. J'ai perdu le fil de mon truc. C'est le service des œuvres françaises à l'étranger qui finança le voyage des Maritains qui embarquaient en 40 à Marseille pour traverser l'Atlantique pour faire cette mission. Ils ne pensaient pas prolonger leur mission au-delà de juin 40. Mais, averti par un télégramme envoyé par le ministère des Affaires étrangères, qui disait ceci... Préférable pour M. Maritain de rester aux États-Unis. Il ne rentra pas en France, il dut rester aux États-Unis tant ses positions vigoureuses contre le national-socialisme et contre l'antisémitisme. Il en avait d'ailleurs fait un livre qui était paru en 1938 qui s'appelait Les Juifs parmi les nations, faisait de lui un homme recherché par la Gestapo qui visita leur maison à Meudon. Du coup, en exil, sur commandement du gouvernement, il fonda à New York l'école libre des hautes études. Et en raison de la prégnance de Maritain sur la première résistance, il était souvent interdit de citer son nom dans la France de Vichy. mais après la rafle parisienne du Valdiv, la voix du philosophe parvint aux Français par un message lancé de New York et lu dans l'émission « Les Français parlent au français ». Il était quand même connu et la Gestapo l'avait assez essayé de le prendre. Il est rapporté que le jour de l'enterrement de sa maman, en juin 1943, c'est rapporté par sa nièce, la Gestapo rôdait derrière les tombes avec l'espoir de l'arrêter. Comme quoi, ils essayaient de voir s'il était revenu et puis de pouvoir le prendre.
Depuis les États-Unis, en consonance avec De Gaulle, Jacques Maritain s'engage avec les armes de l'esprit pour soutenir la résistance, élaborant les munitions idéologiques et publiant, notamment le livre « À travers le désastre ». Ce fut le premier des best-sellers de l'ombre qui circula en France sous le manteau, à des milliers d'exemplaires, polycopiés ou imprimés grâce à des éditions clandestines, et dont l'impact a permis de réveiller les consciences et d'être, selon Paul Claudel, le réconfort de bien des cœurs sous le joug des oppresseurs. Il, en tant que philosophe interallié, fournissait sur tous les fronts les munitions de l'esprit, recherchant les voies d'une reconstruction et travaillant ainsi pour refonder la démocratie, avec le livre « Christianisme et démocratie ». En 43, imprimé sur papier, fin en format de poche, parachuté en 44 par les alliés sur les troupes combattantes qui repoussaient l'ennemi allemand. Comme du sel.
Après la guerre, l'audience internationale des Maritains s'accentua. En 45, le général de Gaulle le nomma ambassadeur de France auprès du Saint-Siège. Alors il faut savoir que pendant la guerre, De Gaulle lui avait demandé, à un moment, lui avait fait parvenir un message, il était aux États-Unis et De Gaulle était à Londres, en lui demandant est-ce qu'il voulait venir, lui demandant de venir à Londres pour être le ministre de l'éducation du gouvernement un peu que De Gaulle avait fondé à Londres. Jacques a refusé parce que il estimait qu'il avait plus sa place à travailler aux États-Unis et à fournir des livres et à fournir des textes et puis des critiques du régime nazi de là où il était. Et puis aussi parce que il avait son épouse qui était fort malade et il avait sa belle-sœur. Donc du coup, ça faisait beaucoup de monde à plus toutes ses obligations intellectuelles. Il n'a pas voulu quitter les États-Unis pour aller à Londres. Par contre, là, quand la guerre a été finie, De Gaulle lui a dit cette fois-ci, mon petit loulou, tu vas en tant qu'ambassadeur de France auprès du Saint-Siège. Là aussi, ça répondait à une demande assez précise, c'est-à-dire que suite à la victoire, le clergé français était quand même assez divisé. Avec d'un côté tout ce qu'on pourrait appeler les maréchalistes et de l'autre côté tout ce qui était un peu les communistes. Et donc il fallait pour la France, pour représenter la France, de quelqu'un qui avait été assez neutre et quelqu'un qui avait critiqué les deux camps, ce qui était son cas. On a coutume de dire qu'il était pour les gens de gauche, il était de droite et pour les gens de droite, il était de gauche. Donc du coup, il pouvait parler à tout le monde et il pouvait en même temps donner une nouvelle voix, une nouvelle idée de la France. Ça lui a aussi permis, quand il était à Rome, de pouvoir rencontrer un certain nombre de prélats, ça vous en doutez, et surtout un prélat en particulier dont je ne me rappelle plus le nom, mais qui est devenu le futur Paul VI. Donc voilà. Donc c'était pas mal. Suite à ça, en 47, il était toujours ambassadeur, il succède à Léon Blum et il conduit la délégation française à Mexico, où il prononce un discours important, « Coopération dans un monde divisé », qui était à l'ouverture de la seconde conférence générale de l'UNESCO. Et du coup, son travail apportait une contribution assez décisive à la Commission des droits de l'homme qui préparait la Déclaration des droits de l'homme de 1948. Un temps d'ambassadeur, c'est toujours limité. Donc au bout de ce temps d'ambassadeur, 3 ans, il a souhaité revenir en France. Seulement, vu son positionnement, pour ceux de gauche, il était de droite, et pour ceux de droite, il était de gauche, autant vous dire qu'il n'a pas trouvé de poste de professeur à l'université, et donc il est reparti aux États-Unis. Il a enseigné pendant ensuite 12 ans à Princeton et puis ailleurs. Il a publié, du coup, il était bilingue, il a publié 2 livres en anglais. Le premier, The Mind and the States, qui deviendra pour les presses universitaires françaises L'homme et l'État, et un deuxième sur l'intuition créative dans l'art et la poésie. Il garde en même temps d'étroits contacts avec la France, puisqu'il donne des sessions à Paris, et il revient l'été en Alsace. Je pense qu'il n'avait pas envie d'avoir le soleil, donc il est venu en Alsace. Il aurait pu aller en Bretagne, c'était pareil, remarquez.
On y va après, hein, c'est pour ça, ne vous inquiétez pas, c'est ma belle famille qui voulait vous fournir la support. Bref, hein. Bon, elle n'est pas juive, hein, mais bon, c'est comme ça. Voilà, donc près de Strasbourg, dans le cadre de séminaires d'échanges philosophiques et théologiques. Et visiblement, l'hospitalité alsacienne leur réussit, enfin, si on peut dire ça, puisqu'ils sont enterrés tous les deux là-bas en Alsace. Je ne dis pas qu'ils sont morts à cause de l'Alsace, attention, hein, d'accord ?
Terrassé par la mort de son épouse Raïssa à Paris le 4 novembre 1960, Jacques Maritain s'installe auprès de ses amis religieux toulousains. D'une part, les petits frères de Jésus, du père de Foucault, dont il était proche depuis la fondation de leur congrégation, et d'autre part, les dominicains qu'il connaissait de longue date, en raison de sa collaboration avec la revue Thomiste. Parmi les petits frères de Jésus, Jacques Maritain avait un ami, André Arler, voilà, qui est devenu islamologue. Et voilà, qu'il avait déjà accueilli à Meudon. Jacques Maritain, âgé et retiré à Toulouse, travailla encore une douzaine d'années. Et il rédigea, à la demande des émissaires du pape venus le rencontrer, 4 mémoranda pour conseiller Paul VI. Et il publia, dans la période post-conciliaire, ce qui fut un véritable succès d'édition, Le paysan de la Garonne. Maritain publia aussi, en tant que philosophe, des ouvrages tels que La grâce et de la grâce et de l'humanité de Jésus, ou bien de l'Église du Christ, sa personne et son personnel. Retiré de toute vie publique, à l'exception du 8 décembre 65, à l'occasion de la réception du message du Concile, adressé lors de la clôture solennelle du Concile par le pape Paul VI aux hommes de la pensée et de la science, puis du 21 avril 66 pour son discours à l'UNESCO sur les conditions spirituelles du progrès et de la paix. Jacques Maritain s'enracina plus que jamais dans la contemplation silencieuse au sein du quartier toulousain, recevant au compte-gouttes quelques universitaires, mais il avait écrit sur sa porte SVP, faites comme si je ne vivais plus sur cette planète. Au soir de sa vie, en 1970, il prit l'habit des petits frères de Jésus, du père de Foucault, pour consacrer ultimement sa vie aux jeunes qui cherchaient la vérité. Il s'éteignit le 28 avril 1973 à Toulouse. Apprenant la mort du philosophe, le pape Paul VI, qui en 1928 avait traduit en italien le livre « Trois réformateurs » et qui s'était lié d'amitié avec lui, qui était devenu ambassadeur en France, de France près le Saint-Siège, comme on a déjà dit, déclara lors de l'Angélus que Maritain fut un maître dans l'art de penser, de vivre et de prier.
Donc ils ont une vie extrêmement dense. Alors si on veut, voilà, les quelques thèmes sur lesquels ils ont travaillé, donc il y avait la science et la sagesse, d'accord. La science et le savoir philosophique sont demeurés au centre de la réflexion des Maritains, lorsqu'il donna à partir de 1936 à l'Institut catholique de Paris un cours sur les questions critiques et de métaphysique. Mais c'était toujours avec le souci de distinguer pour unir, sans rien écarter de ce que l'homme cherche à connaître, y compris les profondeurs du mystère personnel de Dieu, scruté dans la foi par la sagesse théologique et expérimenté par les mystiques chrétiens, voilà, dans un livre qu'il a écrit de la philosophie chrétienne. Après la Seconde Guerre mondiale, toujours sur ces thèmes sagesse et science, il est beaucoup intervenu à temps et à contre-temps pour défendre son approche métaphysique de la science, et il publia son livre « Approche de Dieu », dans lequel, prolongeant le thomisme de l'école, il proposait une sixième voie d'approche de l'existence de Dieu et mit en évidence les voies intellect pratiques pour atteindre Dieu, d'une part l'expérience poétique et d'autre part le choix du bien commun comme premier acte de liberté. L'art et la poésie, ça a été quelque chose aussi sur lequel les Maritains ont beaucoup travaillé. Alors on parle de Jacques beaucoup pour l'instant, de Jacques. Il faut quand même souligner une chose. C'est qu'un homme n'est rien sans sa femme, je peux le dire publiquement, et que en fait ils travaillaient tous les deux. Sa femme était malade, elle était plus faible, mais c'était quelqu'un qui avait une vraie sensibilité artistique, poétique et mystique. Elle le relançait sur beaucoup de sujets, elle écrivait beaucoup de choses, elle corrigeait beaucoup des écrits, elle lui apportait énormément. Par contre, après, c'était Jacques qui publiait, parce que c'était lui qui était professeur et qui était dans les universités. Mais c'est vraiment un travail du couple, des deux. Voilà. Il y a aussi bien elle que lui.
Compte vu qu'elle était malade, elle pouvait moins se déplacer, elle ne pouvait pas faire de conférences, etc. Donc c'est vraiment, la vie publique, c'était plutôt lui, et la vie intellectuelle à la maison, c'était donc du coup à la fois Raïssa, et puis aussi, alors on n'en parle pas du tout, parce que, parce qu'on en parle moins, mais sa sœur Vera, qui était avec eux. Donc sur l'art et la poésie, à la suite de Bergson, auquel il devait avoir quitté les ténèbres de l'athéisme officiel, Bergson étant un philosophe juif qui s'est beaucoup rapproché du christianisme, des catholiques avant sa mort, mais qui n'a pas franchi le pas, une place importante à l'intuition, tout en la concevant autrement que Bergson. Maritain jugea l'intuition essentielle pour la constitution du ou des savoirs. Il n'y a pas de savoir sans intuitivité. Et ceci également dans le domaine pratique de l'art et de la morale. Ce goût personnel pour l'art, la poésie, ainsi que ses nombreuses relations avec les artistes et écrivains de renom, Jacques Maritain le partageait et le vivait avec son épouse Raïssa. Alors il y en a tout un tas qui furent proches d'eux, hein. Je ne vous les citerai pas tous parce que sinon vous ne les retiendrez pas pour la confession de ce soir. Mais il y en avait énormément. Tout ce qui était de l'art et de la poésie et des arts, quels que soient les arts, sont passés chez eux de 1900 à 1900 jusqu'à la guerre et même après la guerre.
On peut quand même parler de Paul Claudel, Jean Cocteau, Max Jacob. Des connus comme ça. Maurice Sachs, peut-être que ça peut vous dire que certaines.
Et toutes ces amitiés n'avaient qu'un seul but, c'était amener ces âmes au bon Dieu.
Il y a une journée oubliée. Julien Green, François Mauriac,
ça, c'est
Georges
pour ce soir.
Barnanos. Voilà. Ils sont les Chagall. Il y a eu énormément de personnes qui les ont rencontrés, avec qui ils ont
dialogué.
Et réfléchi.
Sur le thème de la morale et de la politique, qui est un autre des thèmes sur lesquels ils ont beaucoup travaillé. Donc Jacques, c'est le petit-fils de Jules Favre, qui était ministre des Affaires étrangères, qui a négocié le traité de Francfort. Il est donc, du coup, Jacques est issu de la grande bourgeoisie républicaine, et il a traversé toutes les tragédies du XXe siècle. À ses yeux, ces tragédies trouvaient leurs origines dans plusieurs siècles d'erreurs. Et donc la tâche du philosophe consistait alors à analyser les erreurs en vue de redonner à l'Europe et au monde les chances d'un avenir plus calme. Retrouver les bases d'une démocratie authentique, tel était l'axe de la pensée politique des Maritains. D'accord. Même Jacques resta. J'obéis, vous avez vu, elle me fait sauter des trucs, je dis oui. Jacques Maritain resta toujours, par contre, au niveau des principes, dans un rôle d'observateur, sans s'engager de manière partisane dans un tel ou tel parti. C'était vraiment l'intellectuel, le philosophe pur jus, qui pensait, qui conceptualisait les choses, mais il est toujours resté sur ce terrain-là. Pour lui, alors je vais le citer. Le fidèle peut agir en tant que catholique, participant directement à la mission de l'Église, mais il peut aussi militer en catholique sur tous les autres terrains sans engager l'Église en tant que telle, dans le pluralisme légitime des options temporelles et des compagnonnages compatibles avec la foi. Donc ça, on revient un peu sur ce que je vous disais tout à l'heure. Pour les gens de gauche, il est de droite. Pour les gens de droite, il était de gauche. C'est-à-dire qu'il essayait vraiment d'être au-dessus de la mêlée et d'amener un éclairage exigeant, parce que très exigeant, Les autres termes sur lesquels ils ont travaillé, la culture, la religion, l'éducation et l'histoire. Ouvert à tous les champs du réel, Jacques et Raïssa, s'est préoccupé au fil de leurs œuvres de plusieurs sujets qui ensemble composent leur vision du développement et de l'accomplissement de l'homme. Religion et culture, quatre essais sur l'esprit dans sa condition charnelle. Pour une philosophie de l'éducation, de Bergson à Saint Thomas d'Aquin, il y en a un certain nombre. Tout ça, c'est pour une anthropologie intégrale qui aborde les grandes questions du temps en y apportant l'éclairage d'une sagesse philosophique attentive aux interrogations et aux recherches du monde moderne.
Okay. Voilà, après avoir...
Attends, si. Dernier truc que je voulais dire. On n'en a pas beaucoup parlé. Il y a un livre qui est un livre marquant. C'est Le paysan de la Garonne, qu'il a écrit à la fin de sa vie, qui est un livre qui est une réponse aux dérives de Vatican II, dans lequel il remet en place un petit peu en disant, voilà, il y a la lettre et l'esprit, et on doit suivre la lettre, et c'est pas l'esprit du Vatican, c'est vraiment... voilà. Donc il tape très très fort dans Les paysans de la Garonne en disant, mais arrêtez d'inventer des choses, revenez à l'essentiel.
À toi. Donc après avoir exposé leur vie, nous voulions apporter juste quelques touches personnelles. Ce couple, vous dire en quoi il nous a touchés, notamment par sa complémentarité. On a trouvé qu'il y avait une complémentarité conjugale forte. Jacques et Raïssa ont vécu ce jamais rien l'un sans l'autre au sein de leur mission. Jacques précise que sa femme est la source de la majorité de ses intuitions et qu'il se relisait les manuscrits réciproquement. On le retrouve dans ses journaux, mais alors il y en a des piles et des piles. Donc, en tout cas, voilà, ils étaient fous amoureux et très unis dans leur travail, unis et vivant du bel amour. Ils ont maintenu les portes de leur maison grande ouverte pour accueillir tous ceux qui le désiraient, et surtout envers les plus éloignés du Christ. Il est dit que les baptêmes pleuvaient grâce à ces rencontres. Leur audace évangélique puisait dans saint Thomas, qui disait « Ose autant que tu peux, que tu le peux ». On peut penser aux échanges que Jacques a eus avec Jean Cocteau à propos de ses mœurs, par exemple. Au sein de ce couple, c'est également une complémentarité de force. Raïssa est atteinte d'un phlegmon rétropharyngé et a une santé fragile qui la contraint à rester souvent plongée en alité, et donc elle développe une énorme contemplation et elle lit beaucoup et travaille ou écrit. Portant spirituellement et dans l'intériorité le travail public de Jacques. On apprendra après sa mort combien elle a pu souffrir de cet état, et souffrir et offrir surtout. Également, Raïssa, avec sa judaïté d'origine, a donné des racines à la foi de Jacques, qui en cherchait. Elle lui a aussi donné des valeurs familiales, lui qui venait d'une famille éclatée. Les Maritains ont aussi pratiqué la complémentarité, tu veux dire ?
Au sein de l'Église, entre les clercs et les laïcs. Ils ont eu de nombreux amis prêtres, entre autres le père Clérissac, le cardinal Charles Journet, auquel Jacques rappelait « Il ne faut pas que la théologie de l'Église oublie les tables de Bethléem ». Et le pape Benoît
Paul VI,
voilà, Maritain et lui étaient amis. Paul VI lui demanda conseil dans la rédaction du Credo du peuple de Dieu. Et nous vous renvoyons, là c'est un petit coup de publicité, à l'excellent topo en replay de Frère Benoît sur le site de la famille missionnaire Notre-Dame. Voilà. Donc ce couple nous a également beaucoup touchés par son souci de vérité dans la charité. Notamment, et ça c'est aussi important parce qu'il faut le souligner, Jacques a été une des seules personnes à voir clair dans les dérives sectaires de l'eau vive de Jean Vanier et dans les dérives des pères Thomas Philippe et de son frère, et en a alerté les autorités compétentes. Il n'est pas resté inactif, et ce dès 48, hein, donc il était quand même assez visionnaire là-dessus. Il n'est pas resté inactif et il n'a pas cherché à camoufler les faits. Il a été extrêmement blessé aussi par les critiques antisémites de l'époque, lui qui avait embrassé les racines juives de son identité catholique, atteint même dans son corps, puisque cela lui a même valu une attaque cardiaque. Pour autant, Jacques et Raïssa sont restés fermes et ont continué à dénoncer l'antisémitisme.
Voilà, les Maritains ont eu donc un énorme rayonnement à leur époque, et ils furent parmi les plus grands intellectuels catholiques du XXe siècle. On peut dire que leur héritage reste quelque peu caché du monde, car encore connu que des initiés, et que leur œuvre mérite d'être connue tellement elle est variée, intemporelle, profonde et lumineuse. Il y a beaucoup de choses dont nous n'avons pas parlé, notamment parce que nous ne sommes pas experts, mais notamment leur proximité, on l'a un peu effleuré avec Charles de Foucault, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Aussi, ils ont vécu le thème de la salette. On n'en a pas du tout parlé, mais c'est à creuser pour vous si vous le souhaitez. Vécu à différents niveaux tout au long de leur vie. Nous souhaitions montrer leur actualité. Le 11 juin dernier, une plaque à leur mémoire a été inaugurée et bénie en l'église Saint-Louis des Français à Rome, co-organisée par l'ambassade de France près de Saint-Siège et les établissements de la France à Rome et à Lorette, l'Institut français Sainte-Saint-Louis que Jacques Maritain avait fondé et qui relance à cette occasion des livres qui sont consacrés à eux. Voilà, c'est normal. C'est toi ?
Voilà, comme tu veux.
C'est normal, c'est l'heure. Mais si vous êtes resté sur votre faim, nous vous invitons à découvrir leurs œuvres écrites, notamment Les Grandes Amitiés, lecture de l'été, ou des conférences en ligne, avec en particulier une série de conférences KTO sur 10 heures qui s'appelle Maritain Intime, datant d'avril 2023, organisée par l'Académie catholique de France au Collège des Bernardins, qui a été mise en ligne la semaine dernière. Voilà, Jacques et Raïssa ont vécu intensément, passionnément, leur foi, leur espérance et leur charité. Voilà le sel qu'ils ont donné à la terre, à leurs contemporains, à la postérité. Ils ont ainsi pu porter témoignage de la sagesse de Dieu et être féconds. Nous vous laissons avec cette dernière citation de Raïssa. J'ai le sentiment que ce qui nous est demandé, à nous, c'est de vivre dans le tourbillon, sans rien retenir de notre substance, sans retenir pour nous ni repos, ni amitié, ni santé, ni loisir. Prier sans cesse, et cela même sans loisir. Enfin, nous laisser rouler dans les vagues de la volonté divine jusqu'au jour où elle dira « C'est assez ».